Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Un magazine essentiellement consacré au Triduum Pascal et aux célébrations présidées à Rome par le nouveau pape François, compte rendu et éclairage, et en fin d'émission, la réaction du porte-parole des évêques de France après le rejet du projet de loi visant à lever l'interdiction de la recherche sur l'embryon. À Rome, un des temps forts du Triduum Pascal, c'est le chemin de croix du Vendredi Saint au Colisée, lieu hautement symbolique qui évoque le martyr des premiers chrétiens. C'est une tradition qui remonte à la moitié du XVIIIe siècle et qui a été relancée par Paul VI en 1964. Une procession au flambeau en 14 étapes dont l'impact spirituel et émotionnel attire chaque année des milliers de fidèles et de touristes. Italiens, Indiens, Chinois, Syriens, Nigérians, Libanais, Brésiliens, la diversité des origines des personnes choisies pour porter la croix aura été une fois encore à l'image de l'universalité de l'Église sous le regard du pape installé comme ses prédécesseurs sur une terrasse du Palatin qui domine l'amphithéâtre. Les méditations ont été confiées cette année à un groupe de jeunes Libanais sous la conduite du patriarche maronite, le cardinal Béchara Rai. Benoît XVI l'avait décidé après son voyage au Liban en septembre dernier. Un choix qui reflète l'attention et la préoccupation de l'Église universelle au sujet du Moyen-Orient. Marie Duhamel a rencontré Marielle, Carlos et sœur Joya, la trentaine ou un peu moins. Ils sont membres du bureau patriarcal des jeunes maronites à Pkerké, le siège du patriarcat. Ils expliquent comment ils ont vécu la rédaction de ces méditations.
C'était vraiment un privilège, c'est l'honneur de préparer quelque chose aussi grand que ça.
Seigneur, oh, c'est une grâce. Qui suis-je vraiment pour que je prépare la rédaction de la Via Crucis?
Il y avait le choc tout d'abord, la panique, on ne savait pas quoi faire, en quoi aider, tout ça. Ensuite, au fur et à mesure, nous avons vu comment les préparations ont roulé, on a commencé.
Tous les jeunes des églises ont participé à l'écriture de ces méditations. Les jeunes de l'église latine ont écrit une station, les jeunes melkites catholiques, les jeunes arméniens, chaldéens. Il y avait un esprit de communion.
On a pris des vacances de notre travail journalier, quelques jours pour penser, pour prier. Nous étions comme une famille qui travaille pour la préparation. Donc, le temps de cette préparation était un temps très fort, un temps de fraternité.
Au niveau personnel, j'étais pas trop dans les écritures en tant que telles. J'ai pas peut-être ce bagage. Mais bien sûr, j'accompagnais avec ma prière. Je priais toujours pour faire passer au monde ce qu'on a vécu. Que ces étapes-là reflètent vraiment ce qu'on est en train de vivre.
Et nous avons essayé de porter avec la croix de Jésus les souffrances de l'Orient.
On a prié pour les jeunes de la Syrie, les jeunes de l'Irak, les jeunes des Terres Saintes qui sont en train de passer un temps de guerre, de terrorisme aussi. Et nous sommes en communion tous ensemble, surtout les chrétiens dans cette région.
Tout le monde cherche la foi, tout le monde défend la vie humaine. Ce sont des points communs à l'Orient et à l'Occident. Mais bien sûr, nous avons aussi notre propre souffrance, notre cri pour la paix, pour la non-discrimination rationnelle, notre cri pour le oui à la vie. C'est vraiment notre cri de l'Orient.
Oui, la souffrance crée une maturité et aide beaucoup à écrire du cœur.
Mais aussi, si vraiment vous lisez ces prières, vous trouvez que oui, il y a la souffrance, c'est vrai, mais aussi il y a l'espérance.
On sait qu'on est dans le cœur du Seigneur. On a partagé ces calvaires, si on peut le dire, d'une autre façon, oui. Et on ne s'arrête pas là. Ce rapport avec la croix ne s'arrête pas à la 14e étape de la Via Crucis. Il y a une 15e étape qui est la résurrection, qui va vraiment nous faire vivre de nouveau et vivre pleinement.
Donc même si, oui, nous portons l'Orient avec toutes ses souffrances, nous avons aussi la pleine confiance que notre Orient aussi est une porte d'espérance. Notre Orient aussi est un lieu de témoignage. C'est un lieu vraiment où nous pouvons vivre la foi.
Des jeunes Libanais du patriarcat maronite venus à Rome pour le chemin de croix au Colisée. L'année dernière, les méditations rédigées par un couple italien étaient consacrées aux problèmes de la famille contemporaine.
«
Dès les premiers siècles, les chrétiens sont allés se recueillir sur les lieux de la Passion et de la Résurrection de Jésus à Jérusalem. Mais ce sont les franciscains qui ont développé la dévotion du chemin de croix, comme d'ailleurs celle de la crèche, de la nativité. Au XIVe siècle, en effet, ils sont devenus les gardiens officiels des lieux saints. Ils ont alors organisé la démarche que faisaient les pèlerins le long d'une rue de Jérusalem qui a reçu le nom de Via Dolorosa. La dévotion s'est ensuite étendue au reste du monde. Or, pour la première fois dans l'histoire, l'Église catholique a un pape qui a choisi le nom de François. Par ce choix, ses paroles et ses gestes, il a inscrit son pontificat dans la spiritualité du Poverello d'Assise. À ce propos, nous avons interrogé un franciscain, le père Marchal. Je vous propose de l'écouter.
Si le pape prend le nom de François, c'est tout un programme. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi François ? Ben, parce que c'est celui qui a voulu être proche des pauvres, qui a voulu être pauvre lui-même, etc. Et je crois que ça parle beaucoup aux gens d'aujourd'hui. Mmh. La simplicité et, bien sûr, la fraternité, là, un élément absolument fondamental et qui parle de plus en plus aujourd'hui. La pauvreté, bien sûr, oui, on en parle. Mais bon, disons qu'elle touche un peu moins les gens. Mais en tout cas, la fraternité, la simplicité, la joie aussi. J'ai rendu vraiment grâce au Seigneur. Je l'ai remercié parce que je me dis vraiment, je crois que c'est le pape qu'il nous faut pour aujourd'hui.
En quoi il y a l'idée de restauration de l'Église qui est liée, on le sait, avec l'histoire, avec ce qui avait été demandé à François. Aujourd'hui, on a l'impression, on sait les difficultés qu'ont traversé l'Église, les scandales qu'il y a pu avoir, et le fait que beaucoup de chrétiens se sentent un peu coupés d'une Église parfois lointaine. Est-ce que finalement on arrive à avoir des similitudes entre l'époque de François d'Assise et notre époque d'aujourd'hui ?
Oui, je pense. Il y a un titre intéressant du père Éloi Leclerc que vous connaissez sans doute, hein, Le retour à l'Évangile. Je crois que c'est ça. Au XIIIe siècle, François redécouvre l'Évangile. Il le découvre sans glose. Il veut le vivre sans glose, c'est-à-dire sans beaucoup de discussions autour. Et c'est curieux d'ailleurs qu'il consulte l'Évangile chaque fois qu'il a une décision importante à prendre. Hein. La première fois, ça a été par trois fois. Il entendait ces paroles de l'Évangile. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et puis viens et suis-moi. Hein. Donc, c'est la redécouverte de l'Évangile. Et je crois que François a sans doute donné cette impulsion au XIIIe siècle, avec d'autres comme Dominique et d'autres fondateurs d'ordre à ce moment-là, notamment le mouvement mendiant, de ce retour à un évangile un peu plus, voilà, plus abordable pour les gens, hein, qu'on lit dans la langue du peuple et non plus en latin, etc. Je crois qu'aujourd'hui encore, François a toujours ce message à nous donner, de redécouvrir l'évangile, hein, de laisser de côté un peu toutes ces choses un peu qui nous encombrent.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Dans la basilique Saint-Pierre ce vendredi, le pape François a présidé en début de soirée la célébration de la Passion du Seigneur, liturgie de la parole, adoration de la croix, communion. Au début de la célébration, François s'est prosterné en silence devant l'autel. L'homélie a été tenue comme de coutume par le prédicateur de la maison pontificale. Le père Agnello Cantalamessa a implicitement encouragé le pape François à abattre dans l'Église tous les détritus du passé qui ont entrave l'évangélisation. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
Au terme d'un long exposé, après avoir cité Kafka, Hilaire de Poitiers, Bède le Vénérable, les Écritures Saintes, le prédicateur a pointé du doigt les murs qui divisent les églises chrétiennes entre elles, la bureaucratie poussée à l'excès, le poids des controverses passées, les lois et l'apparat. C'est comme avec certains vieux édifices, a-t-il dit. Au fil des siècles, pour s'adapter aux exigences du moment, on les remplit de cloisons, d'escaliers, de salles et de petites salles. Un jour, on s'aperçoit que tous ces aménagements ne répondent plus aux exigences actuelles et qu'elles sont même un obstacle. Il faut alors avoir le courage d'abattre tout cela et de ramener l'édifice à la simplicité de ses origines. C'est la mission que reçut un jour un homme qui priait devant le crucifix de Saint Damien. « Va, François, et répare ma maison ». Le père Cantalamessa a noté que parfois, lorsque Jésus frappe à la porte, ce n'est pas pour rentrer, il frappe de l'intérieur pour sortir vers la banlieue existentielle du péché, de la souffrance, de l'injustice et de toutes les formes de misère. Le prédicateur a longuement insisté sur l'urgence d'évangéliser, en précisant toutefois que l'évangélisation chrétienne n'est ni conquête ni propagande. L'évangélisation a une origine mystique, c'est un don qui vient de la croix du Christ. Pour le père Cantalamessa, un temps nouveau s'ouvre donc pour l'Église en ce moment. Il est plein de promesses et d'espérances. Il faut demander à l'Esprit-Saint de réveiller chez les hommes l'attente du message et chez les messagers la volonté de l'annoncer, même au prix de leur vie. C'est Dieu, a-t-il martelé, qui nous rend capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, alors que l'esprit vivifie.
Ce samedi, la veillée pascale, présidée par le pape François, commencera à 20h30 dans la basilique Saint-Pierre. Vous pourrez la suivre avec commentaires en français sur notre site internet www.radiovaticana.va. Cette célébration, comme d'autres, sera simplifiée. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a répondu à la curiosité des journalistes ce vendredi à la mi-journée. Xavier Sartre.
On l'appelle déjà le style Bergoglio, la nouvelle manière d'être du pape sous le signe de la simplicité, de l'austérité, qui prend de court ses collaborateurs et suscite dans l'opinion publique des espoirs immenses. Ce style se répercute également sur le déroulement des célébrations liturgiques. Ainsi, la vigile pascale, une des liturgies les plus complexes de l'année, sera abrégée. La longue lecture de la création sera écourtée. D'une manière plus générale, des lectures et des processions ont été raccourcies. La messe du dimanche de Pâques durera environ 1h30 et ne sera pas concélébrée. Il n'y aura pas d'homélie puisque cette messe est suivie de la bénédiction Urbi et Torbi à midi de la loggia de la basilique Saint-Pierre. L'ancien archevêque de Buenos Aires n'a pas l'habitude de distribuer lui-même l'Eucharistie et il ne faudrait pas que toute l'attention se concentre sur le célébrant, a commenté le père Lombardi. Celui qui semble préférer le titre d'évêque au titre de pape ne chante pas pendant les messes car il est un peu à faune, sa force est ailleurs. Il n'est pas prévu qu'il aille se reposer à Castel Gandolfo après les célébrations pascales. L'agenda du pape François continuera d'être chargé après les fêtes de Pâques. Des mois de travail intenses l'attendent, a expliqué le père Lombardi. Le 7 avril, il prendra possession de la basilique Saint-Jean de Latran, la cathédrale de Rome, puis de la basilique Saint-Paul, où il célébrera la messe à une date qui reste précisée. Il y aura aussi des visites aux paroisses romaines, des ordinations sacerdotales, sans oublier les rendez-vous prévus dans le cadre de l'année de la foi.
Et au cours de ce point de presse, le père Lombardi a révélé que le pape argentin avait eu jeudi, après la messe chrismale, une nouvelle conversation longue, intense, significative et belle avec Benoît XVI. Le directeur du bureau de presse a parlé d'un moment de communion entre le pape François et le pape émérite Benoît. Toujours jeudi, le pape argentin s'est invité à la table du substitut de la secrétaire d'État, Mgr Giovanni Angelo Becciu, qui avait convié 7 prêtres engagés dans divers secteurs caritatifs. À l'intention de ceux qui veulent mieux connaître l'Église, selon le cœur du pape François. Amour, service et humilité, c'est le titre du livre publié en France par les éditions Magnificat ce vendredi et qui contient un texte essentiel du pape François, celui des exercices spirituels prêchés aux évêques espagnols en 2006 quand il était encore archevêque de Buenos Aires. Préfacé par le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, ce livre apporte un grand nombre de réponses aux nombreuses questions posées lors de l'élection de ce pape venu du bout du monde. Le pape François médite sur les défis et les enjeux de la vocation épiscopale et offre sa vision de l'Église. Pierre-Marie Varenne, fondateur des éditions Magnificat, nous parle de cet ouvrage qui dévoile au public francophone un large pan de la pensée de celui qui a succédé à Benoît XVI sur le trône de pierre.
Ça révèle exactement ce qu'il y a dans le titre, c'est-à-dire l'amour, le service et l'humilité. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce livre, donc, il fait méditer des évêques sur leur vocation en tant que pasteur, en tant qu'évêque et en tant qu'intendant du Seigneur pour le peuple de Dieu. Il se place totalement dans un sens de la vie qui est la vie chrétienne qui est assez dramatique. C'est-à-dire que c'est un combat spirituel. Et tout son livre est basé là-dessus. C'est le combat entre les deux étendards. Ce qu'il appelle le combat entre les deux étendards, l'étendard du Christ, notre Seigneur, et l'étendard du démon, ennemi de la nature humaine. Avec d'un côté les armes de ceux qui sont sous l'étendard du Christ, c'est un chemin de pauvreté, d'amour, d'humilité. Et ceux qui sont sous l'étendard du démon, l'ennemi de la nature humaine, c'est la richesse, la vaine gloire et l'orgueil. Et tout le livre est battu là-dessus.
Selon vous, ça révèle un petit peu la vision que le pape a de l'Église?
Ah oui,
ou de ce qu'elle devrait être, d'ailleurs, quand il a évoqué la pauvreté de l'Église.
Si vous voulez, le titre pourrait être « L'Église selon le cœur du pape François ». Parce que ce n'est que ça. Il invite ses frères évêques à méditer sur leur mission, sur la mission de l'Église, et surtout sur la réforme urgente de l'Église.
Vous évoquiez les problèmes que le cardinal Bergoglio à l'époque évoquait. Quels sont déjà les problèmes que le futur pape définissait déjà dès 2006?
On retrouve trouve dans ses discours actuels. On voit ce qu'il veut dire, mais ce qu'il évoque juste dans ses discours actuels, dans le livre, il le dit explicitement. Si vous voulez, c'est un guide de lecture de compréhension de ses discours actuels. Ça devient à peu près ça. Il part de tous les défauts qui peuvent être ceux des évêques et qui contrecarrent leur mission. Il parle de la cédille, il parle de l'hégémonisme, de la conscience des évêques qui peut être pleine de préjugés. Il parle de l'autoritarisme, évidemment. Il parle de ceux qui jouent à l'église primitive ou qui jouent à une église pure. Il parle de ceux qui, des évêques qui sont infatués de leur pouvoir. Il parle des évêques ou des prêtres qui pensent inamovibles et qui pensent que leur action c'est la leur et que personne ne peut la faire à leur place. Enfin, vraiment, il passe en revue, à mon avis, toutes les réformes qu'il va faire.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. Les catholiques français ne cachent pas leur satisfaction. Contre toute attente, la proposition de loi visant la levée de l'interdiction de la recherche sur l'embryon humain a été mise en échec à l'Assemblée nationale dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle avait été approuvée au mois de décembre par le Sénat. Le président Hollande en avait fait une promesse de campagne. À l'initiative de la Fondation Jérôme Lejeune, une pétition recueillant 52 000 signatures avait été envoyée aux députés ainsi que 100 000 cartes de protestation. En théorie, toutefois, le texte peut encore être soit repris par un autre groupe parlementaire, soit par le gouvernement. Manuela Affigi a recueilli la réaction de Mgr Bernard Potvin, porte-parole des évêques de France.
Ça n'est hélas qu'un report, même si je trouve très courageux que certains députés se soient opposés à cette loi. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi au sujet de l'infiniment petit, mais évidemment, pour l'instant, ça n'est qu'un report. Donc, à la fois, il y a un certain soulagement que j'éprouve ce soir, comme sans doute beaucoup d'autres croyants et comme beaucoup d'autres personnes que cette question très grave préoccupe. Mais voilà, que vont donner les recours à venir? En tout cas, c'est le signe qui montre qu'on ne peut pas changer comme ça la loi dans l'ombre. On n'a pas le droit de changer comme ça des choses aussi fondamentales qui touchent à l'éthique essentielle. Je rappelle qu'en France, en principe, tout changement fondamental devrait passer par des états généraux de la bioéthique.
C'est assez inespéré, c'est assez inattendu. Qu'est-ce qui, selon vous, a pesé pour que le débat soit reporté?
Je pense que c'est un sursaut de conscience. Moi, je vois là un signe de la conscience éclairée. Cet appel à dire on ne peut pas faire comme ça des changements aussi essentiels sur l'humain, sur le fragile, sur ce qui engage la vie, sur des mesures qui ensuite peuvent devenir irréversibles, qui peuvent être extrêmement lourdes de conséquences. Et je ne suis bien sûr pas dans la conscience de chaque député, mais je suis convaincu que quelque chose de ce ressort a dû jouer. Et évidemment, je m'en réjouis. Je me dis que la politique est grande, elle est digne, tant elle réagit comme ça.
Alors vous l'avez dit, certes vous vous réjouissez, mais ce n'est qu'un report. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite des événements?
Monseigneur Dornelas le dit à plusieurs reprises dans ses interventions, étant donné qu'il est... Il est le référent de l'épiscopat en matière de bioéthique. Il faut garder la vigilance. Il faut continuer aussi à démontrer que la recherche est possible autrement. Pour bien montrer que l'Église n'est pas dans l'obscurantisme, l'Église n'est pas opposée au progrès. Parce que souvent, on dit, oui, vous refusez le progrès. Mais nous pouvons démontrer que d'autres manières de chercher sont tout à fait possibles sans porter atteinte, sans altérer la source de la vie, sans altérer la vie embryonnaire qui est infiniment respectable. Elle est d'autant plus respectable que notre cher embryon, il ne peut se défendre lui-même.
Mgr Bernard Potvin, porte-parole des évêques de France. Dans un rapport publié mercredi, Amnesty International critique le manque de protection des chrétiens d'Égypte par la police et la justice. Les membres de la minorité copte subissent des discriminations dans la loi et dans la pratique. Les chrétiens sont ainsi régulièrement l'objet d'attaques, alors que les autorités détournent systématiquement les yeux. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme, avec sa politique de laisser-faire et d'impunité, le gouvernement égyptien donne un signal qui montre que les chrétiens peuvent être attaqués sans risque. La situation ne s'est pas améliorée depuis la chute du président Hosni Moubarak. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français et sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Merci de nous avoir suivis.